Le silence, silence, c'est pas trop bon. Rien du tout. Là, il y a du bruit. Là.
Bienvenue dans Récréation sonore sur Radio Campus Paris. Béatrice Grand est au micro pour vous ce soir. Aujourd'hui, nous vous proposons une immersion dans le quotidien et les réflexions de femmes qui ont fait le choix d'une vie en milieu agricole. À travers le récit de Inès, cet épisode raconte l'histoire injuste de nombreuses agricultrices qui s'installent avec leurs conjoints sans véritable statut professionnel et se retrouvent parfois en grande précarité lorsqu'une séparation survient. Manuel des Terres est une série de podcasts réalisés par le duo Léa Arson et Émilie Serpossian. Vous écoutez l'épisode 4 de la saison 1, diffusé par le Média Blast. Inès en terre hétéro. Amour, gloire et précarité.
Une création.
Blast!
Alors pourquoi j'ai accepté de répondre à votre invitation? Parce que j'ai très envie de porter la voix des femmes très haut et que j'ai très envie d'expliquer l'histoire des paysannes. C'est important pour moi de les visibiliser et de faire entendre en fait ce qu'on vit dans le monde paysan, qui est un bonheur qui est mêlé de choses qui sont terrifiantes. Et donc c'est important pour moi de passer ce temps à expliquer tout ça.
Manuel des Terres, des outils, des récits et de la matière pour glisser des petits cailloux dans les bottes et jeter des gros pavés dans la mare agricole. Une série podcast proposée par Léa Arson et Émilie Serpossian. Le but de cet épisode n'est pas de briser les élans qui portent des personnes non issues du milieu agricole à s'installer, ou des filles d'agriculteurs à reprendre la ferme de leurs parents. Ce n'est pas de briser les idéaux, ô combien nécessaires, de celles qui aspirent, qui croient possible une vie paysanne, qu'elles soient en couple ou pas. Non. Le but de cet épisode est de lutter contre la précarité. Des marges de manœuvre existent. Car cette précarité, parfois, est liée à des arrangements juridiques et comptables déséquilibrés entre les hommes et les femmes. À un manque de clairvoyance dans le choix des statuts. Inès, en terre hétéro. Amour, gloire et précarité.
10 bonnes raisons de sortir avec un agriculteur. La campagne, les adorables petits veaux qui viennent de naître, les promenades en tracteur, les fleurs des champs et autres champignons qu'ils vous ramènent de temps en temps, les bottes à fleurs qu'il vous a offertes et que vous avez souvent l'occasion de porter. Tous ces détails qui vous ramènent en enfance. C'est grâce à votre agriculteur que vous les vivez au quotidien. Mesurant les dégâts de la télé-réalité, je propose ici la réalité et dans le pré. Pour moi, l'aventure ne s'arrête pas là.
Mon corps de ferme. Aurélie Olivier.
Prochain arrêt, next station. Prossima fermata, Saillon.
Lorsque nous arrivons chez Inès, elle nous annonce qu'elle a la voix cassée. Mais elle reste bien déterminée à nous raconter son histoire. Parce qu'elle a envie que les choses bougent. Parce que ce qui lui est arrivé, elle aimerait que cela n'arrive plus. Que cela n'arrive pas aux jeunes agricultrices qui ont envie de s'installer aujourd'hui. Nous sommes en février dans la Drôme. Normalement, pour Inès, c'est le temps des mises bas. Le moment où les chèvres donnent naissance. Mais cette année, elle ne connaîtra pas les joies et les fatigues de cette période intense où vie et mort s'enchevêtrent. Inès, ancienne chevrière, a quitté la ferme où elle a vécu et travaillé en couple pendant 13 ans. 13 années, portée par le rêve d'une vie pleine, nourrissante et nourricière, en famille, proche du vivant et au rythme des saisons. Inès a quitté la ferme parce qu'elle a décidé de se séparer de son conjoint. Elle a depuis déménagé dans un logement social à 30 minutes de là. Sa nouvelle réalité est précaire. Il lui faut retrouver des moyens de gagner de l'argent, retrouver un sens dans un quotidien entre quatre murs, loin de ses animaux et du grand air. L'utopie de la vie paysanne en couple, qu'il avait portée il y a 13 ans, en a pris un coup.
Je m'appelle Inès, j'ai 48 ans, j'ai été paysanne pendant 13 ans, je vis dans la Drôme. Je suis aussi pompier volontaire depuis plus de 20 ans. J'ai deux filles merveilleuses, deux adolescentes avec qui je passe du bon temps, mais qui m'en font baver aussi, mais dans le bon sens du terme. Et je suis en pleine réinvention, je suis en pleine reconstruction après une histoire difficile, après avoir quitté mon ex-compagnon, ma ferme, mon village, mes collègues pompiers. Et donc aujourd'hui, je dois tout reconstruire. Voilà. Au départ, il était conclu qu'on puisse continuer à s'occuper de la ferme tous les deux. Et en fait, assez rapidement, d'abord, moi, j'ai fait un burn-out après la séparation parce qu'on avait une charge de travail qui était tout à fait énorme. On gérait la ferme, des hébergements, les pompiers, nos enfants, plus une vie associative assez dense, assez riche, et une vie locale aussi assez prenante. Et après ce burn-out, en fait, enfin au moment de ce burn-out, j'ai lu dans le journal que mon ex-compagnon récupérait deux nouveaux mandats. Et donc j'ai vu la charge de travail qui allait s'abattre sur moi et je me suis dit que c'était plus la peine, que non seulement on n'arriverait pas à travailler ensemble, mais qu'en plus moi je pourrais plus supporter une telle charge de travail. Donc au lieu de me laisser deux années comme j'avais imaginé pour mettre fin à cette entreprise agricole tous les deux, en fait j'ai appelé le comptable qui m'a conseillé de mettre fin à la fin de l'exercice comptable. Donc ça c'était il y a à peine plus d'un an, à la fin du mois de décembre l'année dernière. Donc aujourd'hui, je vis dans un logement social, puisque en fait, j'ai plus droit à aucune indemnité. J'ai un statut de travailleur indépendant, puisque j'ai une activité d'accompagnatrice en montagne, mais j'ai pas l'énergie aujourd'hui pour reprendre cette activité à temps plein. Donc je fais que quelques remplacements. Donc il faut que je trouve du travail, je suis inscrite aussi à France Travail et aujourd'hui je gagne de l'argent grâce au RSA. On était dans la ferme familiale de mon ex-compagnon. Tout était à son nom. Excepté les gîtes que nous avons achetés en commun, donc on a qui nous appartiennent à 50-50, mais en fait on a encore pas mal d'emprunts sur ces gîtes, donc il faut aussi faire fonctionner ces gîtes. Donc l'idée c'est que mon ex-compagnon me rachète ma part de ces hébergements puisque tout est pas mal inséré aussi à son habitation perso dans laquelle nous vivions mais qui n'était pas à mon nom. Et donc, du coup, ça va être un bien qui va être difficile à vendre. Donc, a priori, c'est lui qui devrait me racheter ma part. Il faut encore qu'on se mette d'accord sur combien il va me racheter ma part et quand est-ce qu'il pourra le faire. En fait, ça n'a jamais été clair. Je pense que c'est aussi un gros nœud du problème. On avait un compte courant commun et tout allait sur le compte courant commun. Et donc, c'est ce qui servait, en fait, à payer les traites pour le gîte. C'est ce qui servait aussi à notre vie quotidienne, pour sa maison. Et donc pour l'électricité, le bois, le chauffage, ce qui permettait aussi de chauffer le gîte. Donc là, c'était pas clair non plus, tout était entremêlé. Et par contre, tout ce qui était emprunt de la ferme, donc des bâtiments et des terres, ça, c'était à son nom. Il retirait de l'argent du compte commun pour en payer une partie. Sur notre compte commun tombait aussi l'argent que moi, j'ai pu avoir à l'extérieur en travaillant comme accompagnatrice en montagne ou mes revenus du volontariat de pompier. Et je pense que ça a été vraiment une grossière erreur de notre part. C'est qu'en fait, on n'a jamais vraiment éclairci l'histoire des revenus de chacun et des revenus qu'on mettait en commun, etc.
Les agriculteurs ne sont pas des travailleurs indépendants comme les autres. Dans leur économie, bien souvent, leur ferme est à la fois leur outil de travail et leur lieu de vie. Entre les terres, la maison d'habitation, les voitures, les infrastructures agricoles, difficile de distinguer ce qui relève de leur patrimoine personnel et du patrimoine professionnel. Dans le cas des installations en couple, l'économie des deux conjoints est elle aussi très souvent entremêlée. Quand il s'agit de petites fermes, avec peu de moyens, en général, seul un des deux prend le statut de chef d'exploitation. L'autre, fréquemment les femmes, travaille parfois sans statut, ou avec un statut beaucoup moins rémunérateur et protecteur. Le statut de conjointe collaboratrice a été créé en 1999. Il est le fruit d'un long combat des agricultrices. Néanmoins, ce statut reste subordonné à celui du chef d'exploitation et ne donne pas droit à rémunération. Aujourd'hui, ce type d'arrangement se retrouve en particulier chez les couples néo-ruraux, qui font le choix d'installations en bio, de produire moins pour produire mieux. Les femmes, à défaut d'un statut professionnel à part entière, s'en remettent à la solidarité au sein du couple. Une possible séparation et ses conséquences sont impensées, tandis qu'il et elle se lancent dans un nouveau projet qui a du sens et se tient dans un cadre de vie hors du commun.
Je pense à la première fois qu'il y a eu une mise bas, qu'il y avait un monsieur qui était en train de monter le quai de traite. Donc on n'avait encore jamais mis les chèvres au quai de traite. Et en fait, ce monsieur, c'était un ancien chevrier. Il y avait une chevrette là qui est en train de faire son petit, et ça durait. Et donc au bout d'un moment, je vais le voir et je lui dis « Mais c'est pas normal, là, ça fait un moment que ça dure et... » Il doit y avoir quelque chose qui ne va pas et il me dit bah, « en fait, il faut aller voir à l'intérieur ». Donc du coup, je me dis « ok, on va aller voir à l'intérieur ». Aller voir à l'intérieur, ça voulait dire mettre sa main dans le vagin de la chèvre. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis allée tâter et puis j'ai décrit ce que je santé avec ma main à ce monsieur-là, qui m'a dit « Ah bah il est en siège, il va falloir l'aider. » Waouh, il fallait retourner le chevreau, quoi. Truc incroyable que je n'avais jamais fait. Donc du coup, je suis allée chercher les pattes arrière et j'ai tiré sur le chevreau pour qu'il sorte du ventre de sa mère. À ce moment-là, je crois que j'avais même pas de statut sur la ferme. J'étais même pas conjoint collaborateur. J'étais en fin de congé parental, quoi. Il fallait bien le faire. J'allais pas la laisser crever, cette pauvre chèvre. Et voilà, quoi. C'est comme ça que ça a commencé.
Alors, d'abord, le projet de ferme, il était... Il a démarré, en fait, c'est mon ex qui a fait un changement complet d'orientation. Et puis, travailler la terre, c'est quelque chose qui comptait pour lui. Et moi, c'est un projet qui me plaisait, mais j'avais aussi mon activité d'accompagnatrice en montagne que je voulais poursuivre. Donc, j'ai dit OK pour l'aider sur ce projet. Moi, j'étais en congé parental à ce moment-là. Je devais finir mon congé parental avant de décider quoi que ce soit. Donc lui a pris le statut d'entrepreneur individuel. Et donc moi, j'ai commencé à l'aider. Après, j'ai rapidement pris un statut de conjoint collaboratrice. Et donc du coup, il y avait une somme qui sortait par an, mais en fait, c'était pas défini à qui elle appartenait. Si on retirait 10 ou 15 000 euros en début d'année, c'était à mettre sur le compte et c'est ce qui permettait de payer la MSA, qui permettait de payer la mutuelle familiale, qui permettait de payer tous les frais courants, en fait. Donc moi, je n'avais pas de salaire. Mais la MSA prélevait quand même quelque chose par mois. Donc, j'aurais quand même un minima retraite, alors que mon ex-compagnon cotisait pour une retraite de chef d'exploitation. Donc, il aura une meilleure retraite que moi sur les 11 ans où nous avons travaillé ensemble et que moi, j'avais un statut de conjoint collaboratrice. Alors que moi, j'estime que j'ai travaillé autant que lui sur cette entreprise. Et puis, il y a eu le moment du Covid. J'ai vraiment crié au secours parce qu'on avait une charge de travail qui était beaucoup trop intense pour moi, qui devait aussi mener la maison, faire à manger pour tout le monde. Et puis aussi, je m'apercevais qu'en fait, il me fallait véritablement un statut, que je n'étais pas valorisée pour le travail que je menais. Et donc, du coup, j'ai commencé à vraiment... essayer de m'imposer là-dessus. Puis après, j'ai eu des problèmes de santé, puisque j'ai eu des soucis aux intestins. C'était dû à un stress récurrent, jusqu'au moment où j'ai complètement craqué et que j'ai dit que, en fait, je pouvais pas continuer comme ça, on commençait à faire travailler nos filles aussi beaucoup. Alors ça me paraît normal qu'elles participent à la vie de la maison, puis à la vie de la ferme aussi, pourquoi pas. Là, ça devenait trop. C'était imposé, et puis je devenais vraiment méchante et violente dans mes propos, et ça me convenait pas, je me reconnaissais pas, en fait.
Ça me questionne en t'écoutant, parce que t'es une femme qui a la tête sur les épaules, qui mène des projets, qui est dans 1000 engagements, enfin, et on dirait que ce sujet de l'argent, de la gestion du patrimoine, c'est un sujet invisible ou qui n'a jamais... Qu'est-ce qui fait que ce sujet-là n'a jamais été au centre de stratégie, alors que par ailleurs, tu as plein d'autres stratégies?
Ouais, j'y ai réfléchi énormément, moi, à tout ça. Parce que pour moi, j'ai été victime d'une violence financière énorme, alors qu'il n'était pas, peut-être pas consciente, hein, mais en tout cas, voilà. Le fait est que c'est là aujourd'hui. Et en fait, il y a ce jeu un peu de... moi, quand j'ai rencontré mon ex-compagnon, j'avais pas de gros revenus et lui, il avait une maison, il était propriétaire. Moi, j'ai mis très longtemps avant de m'installer chez lui parce que je me disais, mais waouh, il est OK pour que je vienne m'installer chez lui sans me demander quoi que ce soit, ce qui est en fait normal à partir du moment où on fait le choix de vivre ensemble. Ou alors on pose des choses, mais. Et donc, du coup, moi, je me suis jamais sentie à l'aise. De réclamer quelque chose, entre guillemets. Et parce que je sentais que j'étais la pauvre de l'histoire. Et que du coup, j'avais une chance inouïe de pouvoir bénéficier de son patrimoine, quoi. Et c'est quelque part ce que tout le monde me faisait ressentir dans la famille. Et du coup, j'ai jamais osé mettre tout ça sur table, quoi.
La Biovallée, c'est ainsi qu'est surnommée la région où vivait Inès. En quelques décennies, des néo-ruraux et autres pionniers du bio sont venus en nombre ici, à la recherche de modes de vie et de pratiques alternatives. La ferme d'Inès, avec ses chèvres, ses quelques hectares de céréales et ses fromages labellisés Picodon, s'inscrivait totalement dans cette dynamique. Pendant des années, Inès s'est aussi impliquée dans le groupe femmes du CIVAM de son département, une association qui défend l'agroécologie et la place des femmes dans l'agriculture. On est donc bien loin de l'image de l'agricultrice isolée dans sa campagne, soumise au vieux modèle de la complémentarité homme-femme. Et pourtant. Pourtant, en dépit du réseau, en dépit des sensibilités aux inégalités de genre, Inès n'a rien vu venir. Elle ne s'est pas protégée. Pourquoi les injustices économiques au sein des couples d'agriculteurs demeurent-elles autant un non-sujet ? Inès nous propose de rencontrer deux de ses amies proches, qui l'ont soutenue pendant la séparation. Magali habitait le même village qu'elle. Elle a traversé un divorce, peu de temps avant Inès.
Oh là là, ça fait longtemps ! Ça va ma cocotte ?
Moi je m'étais séparée un an et demi avant, donc je comprenais cette étape. Et je savais que derrière, il pouvait y avoir, après le soulagement, les difficultés. Qui sont pas venues tout de suite, mais qui sont venues dès que vous avez commencé à discuter, on va dire, finances, patrimoine, etc., etc. Tout ça a pris un temps, mais incroyable. Et pendant tout ce temps, elle était dans l'attente, je la voyais qui restait dans la maison, dans le giron de l'exploitation, qu'elle avait beaucoup de mal à quitter, et puis avec deux filles scolarisées, une maison en commun, etc. C'était difficile. En fait, à quel moment il faut partir ? À quel moment est-ce qu'on décide de tout quitter ? Donc, on a fait un peu de colocation. Voilà, on a vécu un peu ensemble. C'était super chouette. Moi, j'ai adoré ce moment-là. Et puis, bon an, mal an, la question du logement s'est posée quand même rapidement parce que pour moi, il était indispensable qu'elle quitte l'exploitation. En fait, c'était dur, mais il fallait prendre du recul. Voilà.
Est-ce que toi, dans ce parcours-là, cette histoire-là qui n'est pas tout à fait terminée, est-ce que toi, à l'endroit où tu es, t'as perçu qu'il y ait une forme d'injustice envers Inès ou pas du tout ou...
L'injustice, elle est évidente. J'ai envie de dire que je suis pas sûre qu'elle soit liée au fait que ce soit le monde agricole. Dans les séparations, c'est souvent la femme qui doit se battre pour partir avec quelque chose, qui doit faire estimer sa pension, qui doit faire estimer sa part de travail dans la maison. En fait, d'abord, c'est souvent elle qui part. C'est souvent elle qu'on reloge. C'est souvent elle qui doit se trouver un appart. Parce que la femme a rarement les moyens de tenir la maison, en fait, avec ses seuls revenus. Et là, c'était flagrant pour Inès parce que la maison ne lui appartenait pas. C'était un patrimoine familial hérité. Donc, l'injustice, elle était là. C'est que, de toute façon, la question, elle se posait pas. Inès allait partir. C'était évident. Donc oui, c'était injuste parce qu'elle avait une place importante dans le village. Elle était membre de plein d'associations. Elle a été présidente de la fête annuelle du village autour du fromage qu'elle produisait. Elle était aux pompiers. C'est elle qui faisait les livraisons. C'est elle qui vendait le fromage au marché. Nous, c'était l'image qu'on avait de cette ferme. C'était elle. Et c'est vrai que ça paraissait injuste qu'elle parte. Après, en fait, je pense qu'on s'est toutes dit, malheureusement, c'est comme ça. De toute façon, c'est elle la femme. Il faut qu'elle parte. En plus, elle avait pris la décision. Donc, t'as pris ta décision ? Ah ben, assume. Faut y aller.
Après cette soirée, on file au marché de Cray pour discuter avec Marie, qui elle est maraîchère. C'est ici que, chacune derrière leur stand, elles se sont côtoyées pendant des années, quand Inès vendait ses fromages au marché.
Bonjour, pardon.
On revient sur la question de l'installation agricole en couple.
Alors moi justement, ça m'intéressait d'avoir le point de vue de Marie qui a eu plusieurs GAEC. Est-ce que toi t'en es ressortie à Walpé ou pas, à chaque fois ? Et comment ça fait quand t'es pas installé justement en couple hétéro ? Est-ce que c'est pareil ? Est-ce que c'est pas pareil ? Est-ce que c'est plus facile de s'installer sans être en couple ou pas ? Est-ce que ça pourrait être une solution ? Parce que l'idée c'est de trouver des solutions pour pas que ça se passe, pour pas que ça continue comme ça quoi.
Mais toi c'était un choix de pas t'installer, de pas bosser avec ton conjoint ou ta...
Bah j'ai essayé.
Et
mais ça n'a pas fonctionné parce que le couple n'a pas fonctionné. Et donc, je suis partie J'aurais pu rester sur la ferme, mais j'ai décidé de partir. Je me sentais pas très bien dans cet endroit. Et j'avais des enfants jeunes aussi, seuls, donc c'était pas un souhait de rester seule sur une ferme où je me sentais pas très bien.
Ah, donc en fait, t'as vécu un peu la même histoire qu'Inès il y a quelques années, ça.
Alors nous, tout en location, il n'y avait pas de propriété, donc les enjeux, ils sont un peu différents. Il y a moins d'argent en jeu, je pense. Parce qu'il n'y a pas d'héritage et qu'il n'y a pas, du coup, cette histoire de propriété. Mais oui, la question se pose quand on se sépare, qui c'est qui reste, qui c'est qui part, qui garde le matériel, qui doit quoi à l'autre. Ouais, bien sûr.
Et est-ce que dans l'histoire d'Inès, la séparation et tout, il y a des endroits d'injustice pour toi dans la manière dont la répartition s'est faite entre elle et son ex-conjoint ?
Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis pas à l'intérieur de la compta, j'ai pas vécu ce qu'ils ont vécu et tout. Après, clairement, celui qui possède les biens, qui est là depuis longtemps, c'est une histoire de famille. En fait, il y a forcément de l'injustice parce qu'on reconnaît les biens matériels, mais on reconnaît pas le travail, en fait. On reconnaît beaucoup plus la valeur d'un tracteur que la valeur de heures de femme où elle n'est pas allée travailler parce qu'elle a gardé les enfants, par exemple, ou où elle a travaillé et elle n'a pas été rémunérée à sa juste valeur, quoi. Et du coup, oui, il y a de l'injustice, c'est sûr. C'est ce qui crée beaucoup de colère, d'ailleurs.
Vous avez l'impression qu'entre agricultrices du coin, vous arrivez à en parler de ces choses-là entre vous ou...
Je suis pas sûre que ça me soit arrivé tant que ça de discuter avec des paysannes vraiment du tout petit territoire. Par contre, j'ai été soutenue par le groupe de femmes au niveau départemental.
En fait, ça, c'est aussi une histoire pour moi d'amitié et de confiance. C'est comme tu vas vraiment demander à une copine si elle est mariée, sous quel régime, comment ils sont organisés financièrement avec son conjoint. Là, c'est un peu pareil, ça veut dire rentrer dans l'intimité de quelqu'un... Et donc quand c'est un GAEC, c'est facile, tu fais des rendez-vous avec tes copains qui sont en GAEC et du coup on va poser ça sur la table. Quand c'est sur un couple, c'est beaucoup moins facile en fait de dire « mais alors, t'as quel statut ?» Alors aujourd'hui, entre femmes, il y a une vigilance je pense et du coup ça existe un peu plus peut-être. Mais en vrai, c'est quand même de l'ordre de l'intime et si la personne, c'est pas elle qui vient t'en parler en disant « est-ce que tu trouves que c'est normal ce que je vis ?» En fait, tu demandes pas et t'en sais rien quoi. Franchement...
À l'écoute de ces témoignages, il faut bien l'admettre, une forme de fatalité se dégage. Dans cette histoire, il semble tout bonnement impossible qu'Inès reparte avec une part juste, en rapport avec son investissement durant toutes ces années. Aux yeux de ses amis, la comptabilité d'un couple relèverait de l'intimité. Même si elles la soutiennent, elles se gardent bien de trop mettre le nez dans les histoires d'argent du ménage. Pourtant, elles le savent, elles qui ont toutes les deux connu une séparation. C'est là que se niche le cœur de l'injustice. Le capital, au XXIe siècle, a encore et toujours un genre. Le patrimoine professionnel, des hommes, passe toujours avant la justice économique, pour les femmes. Ce qui compte avant tout, c'est que la ferme survive. Quand on a posé la question à Inès, voilà ce qu'elle nous a répondu.
Il n'y a pas une seule personne dans toute cette période qui t'a dit... Tu serais légitime à rester et
Pas une. Non.
Et pendant toute cette période, est-ce qu'il y avait des personnes qui vous accompagnaient sur les aspects comptables, de gestion économique de votre activité et qui auraient pu vous alerter ou au contraire encourager ce flou ?
On avait effectivement un comptable qui suivait la comptabilité de la ferme. Et qui s'occupait aussi de nous faire les déclarations de TVA, les déclarations d'impôts. Et finalement, la comptable, on allait la voir ensemble à la fin de l'année pour un bilan, mais en fait, on la voyait très peu. Et donc, du coup, moi, j'ai jamais entendu la comptable m'alerter par rapport à mon statut, ni la banque, d'ailleurs. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'il faudrait changer aujourd'hui. Maintenant, avec du recul, je me dis que dans tout projet professionnel, il faudrait que les banques et les comptables soient à même de comptabiliser l'humain.
ce qui n'est jamais fait, en fait. On comptabilise la monnaie, on comptabilise les biens, l'immobilier, mais on ne comptabilise pas chaque personne qui est dans une entreprise. On ne vérifie pas quel statut et quel bien-être elle peut avoir, quoi.
Dans le milieu agricole, les conséquences d'une séparation sur la sécurité économique des femmes sont encore plus grandes. Puisque quitter la ferme, ce n'est pas seulement renoncer à une vie familiale et une maison, mais c'est aussi renoncer à son métier, à ce lien quotidien au vivant et à sa source de revenus. Mais alors, si ce ne sont pas les amis, si ce n'est pas l'entourage professionnel, si ce ne sont pas les multiples experts qui encadrent le monde agricole, qui pour accompagner et prévenir les femmes avant qu'elles ne se retrouvent dans ce type de situation?
Tout de suite, en fait, quand j'ai fait un burn-out, je suis allée voir l'assistante sociale de la MSA qui a mis en place un service de remplacement qui m'a permis d'avoir des séances de psy et qui a mis en place aussi une médiation. Sauf que moi, j'avais demandé une médiation professionnelle et qu'en fait, ça n'existe pas. On a eu une médiation plus familiale que professionnelle. J'ai appelé plusieurs avocats, mais notre situation, elle s'est tellement tout entremêlée entre la vie pro et la vie perso qu'il y a peu d'avocats qui savent répondre favorablement à ma demande. Et en plus, j'ai pas les moyens de payer des avocats. Donc, j'ai demandé une aide juridictionnelle et tous les avocats n'acceptent pas de me prendre avec une aide juridictionnelle.
Cabinet d'avocats, bonjour. Merci de patienter.
Cabinet d'avocats, bonjour.
Oui, bonjour madame. Je m'appelle Émilie Serpotion.
Vous êtes déjà cliente ou c'est pour un nouveau dossier?
Alors, ça n'est pas en rapport avec ça, c'est qu'on est en fait en train de réaliser un documentaire sonore sur des problématiques de femmes dans le milieu agricole qui se retrouvent dans des situations de grande précarité après des séparations. Pour avoir un peu des informations plus juridiques sur ce type de situation.
Bonjour madame, vous avez rendez-vous?
Oui, avec maître Gobé à 16h30.
Je suis Myriam Gobé, je suis avocate depuis longtemps, puisque j'ai prêté serment en 87, donc ça fera 38 ans d'ici quelques mois. Et donc spécialiste en droit rural. Un de mes domaines de prédilection est également le droit de la famille. J'interviens en matière familiale pour les agriculteurs. C'est ce qui fait ma spécificité.
D'accord. Alors, est-ce que vous pourriez me décrire le profil le plus fréquent de femmes agricultrices que vous rencontrez?
Non, parce que je vois différents profils. Il n'y a pas de profil type, vraiment pas.
Donc ça veut dire que c'est tous les âges, tous les types de production.
C'est toutes les productions, tous les profils. Ouais.
Bio, non bio.
Bio, non bio.
Petite ferme, grande ferme.
Petite ferme, grande ferme. Ouais.
Est-ce que vous trouvez que c'est des procédures de séparation de divorce qui sont plus compliquées que dans d'autres secteurs d'activité ou qu'il y a des spécificités liées à ce secteur-là?
C'est éminemment plus compliqué. Ça, c'est clair. Parce qu'il y a plein de paramètres qui sont pris en considération, et notamment la question du patrimoine, du foncier en fait. Du foncier en faire-valoir direct ou en faire-valoir indirect, c'est-à-dire en propriété ou en location. Moi, ça peut m'agacer d'entendre des avocats qui disent « Ah non, non, mais moi je m'occupe du divorce, mais je ne m'occupe pas de l'EARL ». C'est pas possible d'entendre ce discours-là parce que les deux sont liés.
Et alors, les femmes que je rencontre, elles ont beaucoup de mal à trouver des avocates, des avocats qui aient ces deux spécialités-là.
Alors, déjà, il faut savoir qu'il y a très peu d'avocats spécialistes en droit rural et c'est un vrai problème. Pour vous donner une idée, à Rennes, on est plus de 1000 avocats. Regardez le nombre de spécialistes en droit rural, je crois qu'on est 5 ou 6. Avocat spécialiste en droit rural. C'est vrai qu'il y a certainement des difficultés pour les personnes de trouver des avocats et de surcroît au titre de l'aide juridictionnelle, puisque au titre de l'aide juridictionnelle, on ne peut pas parler d'une rémunération de l'avocat. Il est plus indemnisé de son travail plus que rémunéré.
Ok, je comprends mieux le paysage. Est-ce que vous trouvez qu'il existe dans le milieu judiciaire qu'il y a une lecture féministe des choses ou pas du tout ?
Non, je ne crois pas qu'il y ait de lecture féministe. Non, je n'ai pas ce sentiment-là. Après, voilà, c'est une réponse un peu sèche, mais je trouve que de la part des tribunaux, on parle beaucoup des violences intrafamiliales, on parle beaucoup des violences faites aux femmes, on ne parle pas beaucoup de la violence économique faite aux femmes, alors que c'est une réalité. Il y a de la violence économique faite aux femmes quand la prestation compensatoire est ridicule. Et donc là, il peut y avoir une disparité réelle sur la situation des femmes qui disposaient d'un certain train de vie pendant le mariage et qui ne vont pas retrouver leurs conditions de vie après le divorce, c'est clair. Et on peut, à mon sens, parler de violence économique. Et la violence économique est une violence.
Inès, justement, sur ces histoires de droit de la famille, etc., elle n'arrive pas à trouver de réponse claire sur est-ce qu'elle peut demander des compensations ?
En fait, la question que vous vous posez, c'est est-ce qu'il existe une voie de recours pour une personne qui s'est complètement investie aux côtés de son compagnon sans être mariée et sans avoir constitué de société et donc sans aucun statut ?
Exactement.
Voilà. Eh bien, il faut penser à une institution qui est rarement appliquée, mais qui existe, qui est celle de la société de fait. Alors, il y a des critères pour qualifier cette société. Il faut qu'il y ait eu des apports de biens, d'argent et ou de compétences dans une entreprise commune et l'intention de partager les résultats économiques de leur activité commune. Si ces critères-là sont réunis, il pourrait y avoir un recours pour caractériser cette société de fait qui aurait une valeur patrimoniale dont elle pourrait bénéficier. C'est une voie qui est étroite, mais elle existe, donc je trouve que c'est important d'en parler.
Ok. Alors, du coup, je suis une femme qui, avec mon conjoint, on a un projet agricole. On n'est pas mariés, mais on a trouvé une terre, c'est parti. Quel conseil vous me donnez pour protéger notre projet, pour me protéger en tant que personne, pour le protéger lui, nos enfants ? Par quoi je commence ?
Il faut déjà se préoccuper d'avoir un statut. Et un statut qui soit aussi égal que possible entre les deux membres du couple. Donc c'est vrai que privilégier une structure sociétaire est à mon sens beaucoup plus protecteur si on ne veut pas se marier. Si on ne fait pas le choix de la société et de ne pas avoir de statut, parce que c'est un choix, parce que à ce moment-là, c'est là où il faut se marier, en fait. Pour garantir l'autre personne qui n'aura pas de statut, c'est le mariage sans contrat, pour que l'enrichissement du couple profite aux deux membres du couple en cas de séparation. C'est ma réponse, voilà.
Quand ça va monter ou quand ça va descendre, ça va être drôle.
J'aimerais bien que tous les paysans et toutes les paysannes et tous les gens qui sont autour là prennent un temps dans la journée pour juste une phrase, un moment d'observation, réfléchir à une couleur ou à un son qu'ils ont entendu et se dire qu'il y a de la beauté dans la vie, la beauté avec un grand B. Cette beauté-là, il ne faut jamais l'oublier. Et, quand on est pris dans le quotidien de la paysannerie, très souvent on oublie et c'est dommageable en fait.
Et là, une petite maison s'est posée juste à côté de nous, c'est charmant.
Retour dans les reliefs drômois. Avant de se quitter, Inès remet ses chaussures d'accompagnatrice et nous emmène dans cette montagne qu'elle arpente depuis des années. Une montagne qui nous tient, nous raccroche à la patience, la force et la beauté.
Les anges charbonnières, éclatées.
ce chocard à bec jaune. Et là, c'est le gîte du col de la Chaudière de Mamie et Céline.
Genre, c'est là qu'on se pose et qu'on fait les interviews, genre.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Ça me va méga bien. J'ai hyper envie d'une clémentine d'abord.
Ah, là, il y a des petites cerises noires des Pyrénées, enfin du Pays Basque, avec des petites noix.
Mmh. Merci.
C'est trop, trop bon. Bon, je le ferme, mais c'est juste pour que ça tombe, mais vous servez, si vous en voulez.
En fait, je me dis, c'est le truc de l'utopie, tu nous en as parlé hier, que vous étiez dans une sorte, en tout cas toi, avec le recul, tu te dis d'utopie, de projet de vie et tout ça. Et du coup, si tu te parlais à la toi d'il y a 17 ans, tu vois.
Eh bien, en fait, ce que je me conseillerais, c'est d'aller prendre des cours de gestion comptabilité d'une... Je me suis formée que sur des choses... pratico-pratique, mais je ne me suis pas formée sur la gestion de la ferme et sur la comptabilité, par exemple. Donc ça, faut le faire, quoi. Mais ça, j'arrête pas de le dire quand je fais des interventions. En fait, la comptabilité, ça paraît toujours chiant pour tout le monde, mais en fait, c'est essentiel, quoi.
C'est un outil d'autonomie, en fait.
Ouais, complètement.
Mais vraiment, je suis persuadée que je pourrais réussir à remonter une ferme un jour, sans m'épuiser, en fait. Parce que c'est ça, le truc, en fait. Ça me plaît tellement, quoi. Et je pense que j'arriverai à le vivre autrement, à prendre du temps pour moi. Et c'est ce que, vraiment, j'essaye d'amener aussi quand je fais des interventions, maintenant, dans les BPREA, donc les gens qui sont en formation agricole. C'est ce que j'ai envie de dire aux personnes qui s'installent, quoi. En fait, dans les CIVAM, on parle beaucoup d'agriculture durable. Mais si le paysan ou la paysanne n'est pas durable, ça peut pas continuer, quoi. Et je pense qu'il faut qu'on soit ouvert à ces nouvelles formes, mais vraiment de réinvention de l'agriculture. Je suis vraiment persuadée que ça peut fonctionner. En faisant confiance à des gens qui arrivent dans ce milieu. Et c'est pas un métier où on peut devenir millionnaire, mais c'est tellement plaisant comme travail. C'est tellement bon de bosser avec du vivant. Les animaux, ils vous le rendent tellement. Et puis de pouvoir vivre de sa production, c'est quelque chose de complètement fabuleux, quoi. De vivre au rythme des saisons. Et je pense qu'aujourd'hui, je le vivrais autrement. Je le vivrais pas comme quelque chose qui m'appartient, mais comme un outil de travail. Et voilà, qui doit se passer à quelqu'un d'autre. Et c'est assez étonnant, parce que quand on a monté cette ferme, on s'est débrouillé pour que la ferme, elle soit de l'autre côté de la route, ce soit un bâtiment à part, pour que éventuellement ça puisse être repris par quelqu'un. Et puis, pour faire carrément autre chose que du fromage de chèvre. Mais, en fait, ce besoin de propriété, il était toujours présent. Et moi, j'ai pas ce même attachement, hein, c'est sûr. Parce que moi, je suis pas née ici. Mais j'ai un attachement à la terre, quand même, quoi. J'ai un attachement à cette activité agricole. J'aimerais un jour me réinstaller avec du monde, ou alors aider quelqu'un qui s'installe, ou... Voilà, des fois je me prends à rêver de ça avec des gens que je rencontre ou bien avec une de mes filles, sans du tout vouloir pousser qui que ce soit à le faire. Ça arrivera ou pas. Mais ouais, je me verrais bien aussi peut-être faire un peu de médiation dans le monde agricole pour aider des personnes. Ça peut être des personnes qui sont installées et pour qui tout va bien. Mais en tout cas, je pense qu'il y a des choses comme ça qu'il faut mettre en place sur les fermes pour que ça dure, quoi.
Thank you.
les dernières paroles d'Inès ouvrent une piste intéressante. La propriété, telle qu'elle est conçue aujourd'hui, nous étrique, dans des rapports à la terre possessifs et figés, qui empêchent de penser la ferme avant tout comme un outil de travail, et qui perpétuent les inégalités patrimoniales, souvent au détriment des femmes. Inventer d'autres voies d'accès à la terre, ébaucher des propriétés d'usage sous diverses formes, voilà peut-être une des pistes pour sortir de cette impasse. C'est ce que nous irons creuser dans le prochain épisode avec Rachel, qui s'est installée avec un associé qui n'est pas son conjoint, sur des terres mises à disposition par la municipalité. Vous trouverez en lien sur la page de cet épisode tous les travaux et toutes les ressources que nous avons identifiées concernant l'accompagnement juridique des agricultrices lors des séparations, l'aide à l'installation des femmes et la lutte contre les inégalités économiques genrées. On se retrouve dans 2 mois pour le dernier épisode de cette première saison. Allez,
salut !
Désolé, mais ils ont creusé un crasse trou noir infini. Et infini à des millions moi dessous. Je reste assis seul à genoux en répétant ça va, ça va, ça va, ça va. Jusqu'à ce qu'arrive la bande, les sons des terres du dessous. Salut, nous sommes la bande, le club, le gang qui reprend tout. Nous allons renverser l'exemple, comment on vit là en dessous. Tenez, voici le manuel, le manuel.
Récréation sonore sur Radio Campus Paris.
Vous venez d'écouter Inès en terre hétéro, amour, gloire et précarité. Un épisode de la série Manuel des terres, diffusée sur Blast et réalisée par le duo de réalisatrices Léa Arson et Émilie Serpotion. Vivant chacune loin de l'autre et loin de Paris, je profite d'un de leurs passages à la capitale pour les rencontrer. Une interview pour comprendre leur motivation et leur méthodologie. Léa, Émilie, bonjour. Dans le podcast qu'on vient d'écouter, vous nous amenez vraiment au milieu des champs, de la campagne. Est-ce que c'est un environnement que vous connaissez bien ? Est-ce que c'est un environnement où vous avez grandi ?
Moi, je n'ai pas du tout grandi en campagne et je n'ai pas d'ascendance familiale dans le milieu agricole. Par contre, j'ai fait des études en agronomie et j'ai voulu travailler avec des paysans et des paysannes assez vite. Et donc, professionnellement, c'est ce que j'ai fait en tant que salarié d'une asso agricole pendant 11 ans. Voilà. Et je vis à Moidon-la-Rivière, une petite bourgade de 2000 âmes.
Où est-ce que c'est ça ?
C'est pile poil entre Nantraine et Angers, dans le pays de Châteaubriant, dans le Grand Ouest. Voilà, et je vis là-bas depuis une petite quinzaine d'années maintenant. Voilà.
Ouais. Et toi, Léa ?
Moi, je n'ai pas du tout grandi dans le milieu agricole. Enfin, franchement, je pense qu'avant mes 25 ans, je ne connaissais rien à ce monde-là. Pourtant, j'ai grandi entourée de champs, mais je ne m'étais jamais posé la question de qui s'occupait de ces champs ou voilà. Mais j'ai grandi dans la banlieue lointaine de Paris. Donc par contre, avec la forêt à côté, oui, je me sens bien dans un milieu plutôt naturel, même un peu sauvage, quoi. Mais pas du tout de culture agricole ou même... Enfin, la banlieue lointaine, c'est quand même... ça reste un peu des villes dortoirs d'une certaine manière qui sont très tournées vers Paris. Enfin, il y a le RER, donc pas vraiment un mode de vie rural.
Et alors, toutes les deux, votre rencontre, elle correspond à quand ?
21-22, je dirais. À l'époque, moi, je commençais à faire de la radio en local, un peu en autodidacte, puisque je n'avais pas de formation là-dedans. Et Émilie donc, travaillait sur les questions paysannes, je te laisserai expliquer. Et en fait, à ce moment-là, il y a eu un peu une convergence de moi qui avais envie de plus aller sur les sujets agricoles et Émilie qui avait envie de faire de la radio. quand Léa, on s'est rencontrés pour parler plutôt question politique pour un média autre que la radio, on a échangé nos souhaits et on a dit « Ah, oh, mais ça converge, c'est trop bien !» Après, on s'est fait une année de visio toutes les deux semaines et on s'est rencontrés en vrai, en physique, un an après,
sur notre premier tournage. Ah oui, tout ça, ça a commencé par téléphone, puis par visio.
On est quand même plus loin l'une de l'autre en France, tu peux pas faire, quoi, quasiment.
Si, je pourrais être dans le Finistère,
mais... Ouais, mais voilà, quoi. La Bretagne, la Roya, c'est vraiment, c'est la frontière franco-italienne, c'est le sud-est, c'est encore plus loin que Nice. Et Émilie, oui, c'est Loire-Atlantique, donc c'est l'ouest.
Mais vous voyez souvent ?
Pour les tournages, bah, en vrai, on se voit, tous les deux mois, quoi.
Ouais.
Depuis deux ans, oui.
À
chaque fois, c'est des tournages d'une semaine. Donc, en fait, on passe pas mal de temps ensemble.
Oui, parce que c'est aussi par rapport à nos méthodes de travail qui font que pour un épisode de 45 minutes, on passe 5 jours minimum dans le lieu avec les personnes. Donc, ça fait qu'on a aussi d'autres temps entre nous que des temps... Enfin, on ne vient pas extraire de la substance en deux-deux où on vient pour une interview d'une heure et on s'en va. On a vraiment à cœur, et c'est aussi dans nos méthodes qu'on considère comme féministes, de créer du lien, de prendre soin de la personne, que ça lui apporte aussi à elle, qu'on ne vienne pas juste lui sucer sa moelle pour faire notre beurre dessus, quoi.
Donc, et on fait les tournages ensemble, toujours à deux.
Ouais.
Donc là, on en est... on est à Paris pour notre 8e tournage en 2 ans. Donc ça fait quand même... 2 mois passés ensemble, mis bout à bout.
9e tournage, oui, parce qu'on sera... Ouais.
5 pour la saison. Saison 1, 5 épisodes. Saison 2, 5 épisodes.
Et donc, vous arrivez à maintenir le cap de tous les 2 mois à peu près, une semaine de tournage, un épisode ?
On a changé nos méthodes de travail entre la saison 1 et la saison 2 parce que, on n'avait pas fait de création. Enfin, moi, je n'avais pas d'expérience de création documentaire. Léa en avait plus que moi, mais de le faire à deux, c'est encore autre chose. Et donc là, cette année, on est à tous les mois, mais ou presque tous les mois et demi, resserré sur 5-6 mois. L'année dernière, on faisait tous les 2 mois. Enfin, voilà. Mais on tient le rythme, c'est dans notre orga de travail. Ouais.
C'est-à-dire qu'au début, on a commencé vraiment bénévolement. Et là, en 2 ans, on a quand même réussi à trouver de l'argent pour se rémunérer. Donc, on a calculé que c'était à peu près un mi-temps, en fait, qu'on consacrait à la série. Donc... on tient le rythme parce qu'il y a quand même l'argent derrière qui nous permet de le faire.
Ouais, ouais.
Et puis moi, c'était un souhait de faire ce travail-là de manière rémunérée parce que finalement, à la fois sur les questions féministes et sur les questions agricoles, le travail gratuit des nanas, moi, c'est vraiment une question qui m'interpelle très fort. Le milieu agricole mondial, de manière générale, repose sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail gratuit et d'exploitation des femmes. Et le reste de la société aussi. Donc là, ce qu'on propose avec notre série, c'est un vrai outil de plaidoyer, d'éducation populaire, de visibilisation de parcours, de réflexion politique, qui est utilisé par le commun des mortels, chacun chacune, pour l'écouter chez soi, mais en lycée agricole, en école d'ingé, dans des assos qui font du développement agricole et de l'accompagnement à l'installation. Donc c'est en fait, on fait un vrai travail, quoi. Donc, c'est normal qu'on soit payé. Donc, on travaille à la recherche de subventions et de soutien pour que, que ce soit un travail payé. Il n'est pas encore assez payé, mais c'est de mieux en mieux.
J'en suis sûre. La partie montage, comment vous faites ce boulot-là ?
Pareil, on a expérimenté différentes choses. On a expérimenté de se mettre ensemble dans une salle pendant une semaine pour faire du montage. Ce qui a plus ou moins bien marché. Enfin, en l'occurrence, on n'était même pas chez nous, peu en résidence de montage. Et ça, c'est un peu dur. Là, maintenant, on a essayé de monter à deux avec une qui fait une première version, l'autre qui prend la suite. Aujourd'hui, on est plutôt là-dessus. En tout cas, il n'y a pas une qui fait le montage. Et enfin, on écrit. En fait, on écrit à deux dans le sens où, l'issue d'un tournage, on se pose et on fait une trame de « Ah ouais, je verrais bien ça dans tel ordre. » Et ensuite, il y en a une qui fait le premier dérochage, c'est-à-dire de sélectionner les extraits qui vont bien, de les mettre un petit peu près dans un ordre qui raconte une histoire. Parce que le montage, c'est l'acte d'écriture. C'est le moment où, à partir de toute une série de matériaux bruts, on va sculpter quelque chose. Et donc après, l'autre, là, ce qu'on test maintenant, c'est une qui fait une première version, l'autre qui écoute avec une oreille un peu neuve et qui là prend le relais pour finaliser. Et on essaye d'inverser, c'est-à-dire que ce premier jet qui est un petit peu structurant, et ben on fasse une fois,
épisode sur deux.
Voilà, un épisode sur deux.
Parce que l'avant, on faisait chacune un bout par partie, quoi. Léa faisait le premier tiers, je faisais le deuxième tiers, on finalisait le troisième tiers. Et ça a plus ou moins marché, mais du coup, on avait envie d'expérimenter autre chose.
Et puis aussi, c'est bon, enfin, c'est aussi un truc assez créatif. Et créer à deux, c'est aussi, enfin, ça se construit, quoi. Donc, c'est se faire confiance. Des fois, c'est un peu objet de négociation. Des fois, bah, t'es trop contente de ce que propose l'autre et de découvrir. Enfin, du coup, il y a aussi se faire confiance là-dedans, faire confiance à l'autre.
Ouais, sachant qu'on était aussi en conflit de légitimité, enfin avec un truc de l'impostrice un peu, enfin peut-être moi un peu plus que toi, Léa, mais d'assumer de faire un truc vraiment professionnel.
Bah moi, c'était un autre endroit, c'était peut-être plus sur les connaissances vraiment du milieu agricole et défendre un point de vue politique. Enfin voilà, je pense qu'on avait des forces à des endroits différents et progressif. Enfin...
Mais c'est tout l'intérêt de notre duo, en vrai. Parce qu'on a des parcours de vie et à des endroits de nos vies qui ne sont pas au même endroit. Du coup, on a des regards qui ne sont pas les mêmes. Et comme on a envie, justement, de bien faire ensemble et de prendre soin de notre manière de faire ensemble, il y a une intelligence collective qui est trop cool. Ça rend les tournages, les interactions, les entretiens vraiment bien plus riches que si on le faisait l'une seule sans l'autre. Idem pour le montage et du coup, les épisodes à la fin, quoi.
Ouais, c'est sûr. Chaque épisode est unique en son genre puisqu'il y a, il y a un travail de création sonore que là, dans l'épisode là, qu'on vient d'écouter, il y a un moment donné, il y a une mise à bas d'une chèvre.
Oui,
et puis alors elle met ça parce que la chèvre ne sort pas, le petit, il est en assise. Et là, on entend des...
Oui.
Expliquez-moi comment c'est.
Non, mais parce que c'est vrai qu'il y a la création musicale, mais après, il y a aussi tout ce qui est création sonore avec... des bruits. Qu'en fait, c'est vrai que comme du coup, on vit en milieu rural, il y a aussi un truc, c'est... Enfin,
c'est nos sons aussi, quoi.
Voilà, d'aller choper du son. Et puis, moi, ça nous détend beaucoup. On est quand même assez cérébral. Ça nous détend beaucoup de faire des enregistrements, juste du field recording, d'enregistrement comme ça de son. Et après, de s'amuser à bidouiller en vrai, hein, parce qu'on n'est pas musicienne ou juste de bidouiller entre de la musique, des bruits qu'on a enregistrés et d'essayer que ça raconte. Enfin, que ça participe à l'écriture, en fait. Et du coup, là, les sons de mise bas...
En fait, tu étais allée enregistrer ta pote, parce que du coup, quand on a enregistré Inès, elle n'était plus, malheureusement, avec ses animaux. Donc, tu étais allée enregistrer une pote à toi pendant la séance des mises bas. Oui. Et le fameux bruit que tu évoques, c'est un agneau qui tape sa mère, en fait, qui vient de naître.
Ah, c'est tous les petits agneaux autour du...
C'était des agneaux ou des cabris, je ne sais plus. Ta pote,
c'était des cabris ou des bébés chèvres. Et ils étaient en train de téter autour. C'est un espèce de biberon à 1000 tétons, quoi. Et tu as tous les petits qui viennent autour et qui font...
Les milk bars, ça s'appelle. Oui.
Que tu as utilisé pour la dame qui met sa main...
Ouais. Et on fait des bruitages par nous-mêmes aussi.
On triche. Enfin, on fait de la reconstitution.
Parfois. Alors, pas là. Là, on n'a pas imité le cabri.
Émilie, elle frotte des feuilles.
J'adore frotter des feuilles. Ou du foin. Enfin, tu vois, mais des trucs qui évoquent, mine de rien, des textures et en même temps, des sons qui peuvent s'apparenter à de la douceur ou de la rudesse. En fonction de ce qu'on a envie de susciter comme image.
En tout cas, c'est assez évocateur à l'écoute. Bravo. Puis, merci pour votre travail. Et votre podcast qui nous amène à découvrir tout un milieu et puis à réfléchir aussi les choses de manière posée et calme. Et je vous souhaite bonne chance pour la suite.
Merci beaucoup.
Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission. On espère que ça vous aura plu. Vous pourrez retrouver cet épisode sur les plateformes de streaming. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Récréation Sonore. C'était Béatrice Granhaie.
Récréation sonore sur Radio Campus Paris.
Ich bin so ein bisschen.